Alors, on est rendu à notre deuxième leçon, puis dans le fond, c'est la troisième sermon, parce que chaque leçon, vu qu'elle est longue un peu, elle prend approximativement une demi-heure, puis chaque leçon prend plus une heure. Alors, on est dans la deuxième leçon, mais dans le troisième sermon. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va regarder, c'est la dépression chez les chrétiens. C'est un phénomène que j'ai eu l'occasion de côtoyer dans les différentes églises où j'ai été. Et à quelque part, on se rend compte quand on est placé face à des personnes qui traversent des périodes de dépression, on se sent vraiment impuissant. On ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi penser. Et souvent, on dit des niaiseries. On dit des choses qui ne sont pas trop fortes, autrement dit, qui souvent contribuent plus à augmenter la culpabilité de la personne qui vit la chose que, plutôt qu'à l'aider. Alors le but, moi j'avais trouvé un volume qui était recommandé par des personnes, des prédicateurs américains que j'apprécie énormément. Et ils ont dit, ce petit livre-là, on vous le recommande très chaleureusement, même s'il n'est pas gros, il n'est pas épais. Mais l'auteur, on voit qu'il a fait son travail, il a vraiment étudié le phénomène sous toutes ses facettes, tous ses angles. Alors ça peut nous aider à... On ne deviendra pas des spécialistes des dépressions, mais cependant, au moins, on peut agir de façon intelligente lorsque quelqu'un est placé sur notre route qui vit de pareilles choses. Alors, dans notre première leçon, la leçon des deux dernières semaines, on avait examiné les 8 raisons pour lesquelles on se doit d'étudier la dépression chez les chrétiens. On avait vu un petit peu le phénomène que le taux de dépression dans la population générale et le taux de dépression chez les chrétiens en particulier, c'est pas très différent. Alors ça, c'est inquiétant un peu. Moi, j'avoue que j'en ai côtoyé des gens dans des églises dans lesquelles j'étais, des gens dépressifs, et c'est vrai qu'on se sent tellement impuissant. Alors, on avait vu les 8 raisons pour lesquelles on se devait d'étudier la dépression. Et aujourd'hui, on va regarder, dans notre deuxième leçon, l'attitude nécessaire pour étudier le phénomène. Alors, on a des principes qu'on se doit d'appliquer si on veut étudier le phénomène avec intelligence, avec sagesse, de façon biblique. Alors, le premier principe qu'on se doit d'appliquer si on veut étudier la dépression dans le monde des chrétiens, c'est premièrement, c'est éviter le dogmatisme. Alors, lorsque la parole de Dieu est dogmatique, par exemple, la divinité de Jésus-Christ et d'autres choses, le Dieu trinitaire, etc., des vérités qui sont établies solidement, qui sont fondamentales, qui sont incontestables, les prédicateurs et les chrétiens en général se doivent de déclarer avec fermeté, avec assurance et autorité les vérités doctrinales. Ils ne doivent pas se contenter de suggestions ou de propositions. Ils doivent affirmer sans hésitation, ainsi parle l'Éternel. Malheureusement, les pasteurs, auteurs et chrétiens en général adoptent souvent une attitude dogmatique dans le domaine de l'étude des dépressions, alors que la Bible ne les autorise pas à le faire. Nous sommes témoins de ce genre d'attitude quand il s'agit de parler, de conseiller ou de tenter d'aider des personnes souffrant de dépression ou de troubles de l'anxiété. Moi, je me souviens d'avoir entendu quelqu'un dire « ça se peut pas un chrétien qui fait une dépression parce que quand Dieu sauve, il sort de tous ses problèmes ». Et aujourd'hui, à l'époque que j'avais entendu, je n'avais pas dit un mot, là, mais aujourd'hui, je pense que je parlerai là, parce que je ne suis pas d'accord du tout avec sa façon de voir les choses. Alors, les auteurs qui ont effectué des recherches sur le sujet de la dépression chez les chrétiens sont souvent choqués par l'attitude arrogante de chrétiens qui écrivent ou qui commentent sur le sujet de la dépression. Leur dogmatisme dangereux reflètent souvent leurs propres préjugés personnels plutôt que basés sur des principes de la parole de Dieu. Ils contribuent ainsi, sans doute involontairement, à entretenir la confusion et l'incompréhension. Alors, le sujet délicat de la dépression et des états anxieux, parce que le petit bouquin que je me sers pour préparer les leçons, et il associe les deux choses, dépression et état anxieux, il met ça dans la même catégorie de problèmes. Alors, il dit que le sujet délicat de la dépression et des états anxieux requiert une pensée et une communication qui est pleine d'attention, d'équilibre et de sensibilité. Premier principe, éviter le dogmatisme. Deuxième principe, rechercher l'humilité. Autrement dit, il n'y a pas de honte à dire « je ne sais pas ». On ne le sait pas, bien souvent, plus souvent qu'autrement, on ne le sait pas. Alors, plutôt que de dire, ah, ben là, c'est sûrement parce qu'il y a du péché dans sa vie, ou ben non, telle autre raison, on est mieux des fois de se taire. Le silence est d'or, comme on dit souvent, dans plusieurs cas. Alors, rechercher l'humilité, ça veut dire qu'on se doit de reconnaître notre ignorance et notre insuffisance devant un sujet qui exige de profondes connaissances à la fois médicales, psychologiques, et biblique. Alors, c'est un sujet complexe et souvent mystérieux lorsqu'il s'agit d'identifier les causes réelles et les conséquences de la dépression. Troisième principe, éviter les extrêmes et rechercher l'équilibre. Qu'est-ce qu'on veut dire par éviter les extrêmes? Quand on regarde l'ensemble des choses qui sont écrites à la fois sur la dépression et sur les états anxieux, on se rend compte qu'il y a comme trois grandes écoles de pensée. La première, c'est qu'il y a des gens qui vont dire « la cause est toute du domaine physique ». Autrement dit, c'est toute une question de déséquilibre de la chimie du cerveau, etc. Il y a une autre école qui vont dire « la cause est toute du domaine spirituel ». Autrement dit, ils vont dire « si la personne souffre de dépression, c'est parce qu'il y a des péchés non confessés dans sa vie, etc. ». Non, ils vont tous dans ce sens-là, ou à peu près. La troisième, c'est que la cause est toute du domaine mental ou psychologique. Des fois, on dit souvent, « Ah, tout est dans sa tête. » Souvent, on dit ça, « Ah, c'est juste dans sa tête son problème. » Mais des fois, c'est plus que dans sa tête. Oui, ça peut être dans sa tête, dans un sens à la fois physique et à la fois psychologique et à la fois spirituel. Des fois, dans la dépression, il y a les trois dimensions. Pas tout le temps, des fois oui, des fois non. Alors, c'est pour ça que ça rend la chose complexe. Alors, on va regarder un petit peu les trois positions et on va amener les critiques face aux trois. Et enfin, on va regarder comment l'auteur que je me sers, je trouve qu'il y a une position très intelligente, très sage, très biblique. Alors, c'est pour ça que je considère que c'est important qu'on la donne à l'Église locale, puis qu'en même temps, on met ça sur Internet. Alors, les gens peuvent trouver ça quelque part. On le sait que ce qu'on envoie sur Internet, des fois, c'est surprenant de voir. Ça sort de tout pays, les gens nous trouvent. Puis, bon, la leçon, ils peuvent l'imprimer, ils peuvent l'utiliser dans leur propre milieu, à la fois pour leur propre compréhension et pour aider les autres aussi. Alors, depuis plusieurs années, ce n'est pas un secret pour nous, le monde de la médecine traditionnelle et de l'industrie pharmaceutique a tendance à expliquer la dépression par des causes purement physiques, soit un débalancement ou une déficience chimique au niveau du cerveau. Plusieurs médecins et psychiatres ont adopté cette position et offrent de corriger le problème en prescrivant des antidépresseurs. Alors, c'est le modèle qu'on pourrait dire médical ou le traitement par les médicaments. Alors, cette approche semble justifiée par la recherche médicale. Des études ont démontré que les cerveaux des patients déprimés ont une chimie et des circuits cérébraux différents de personnes en bonne santé mentale et émotionnelle. Pour exprimer cette idée avec simplicité, nous pouvons dire que le cerveau a besoin de certains produits chimiques qu'on appelle les neurotransmetteurs pour produire les pensées. Lorsque ces produits sont déficients, tout le processus de la pensée, est ralenti ou même arrêté dans certains cas. Je vous ai parlé récemment d'une personne pour laquelle je vous demande de prier, qui sont dans un moment de... L'épouse souffre d'une dépression depuis 2 ans et une dépression très sévère. J'ai eu l'occasion de parler avec lui, son mari, sur Skype, et c'est difficile, c'est tellement difficile, on n'a pas d'idée comment, tant qu'on est en dehors de ça, mais 2 ans, c'est long, c'est très long, à la fois pour la personne qui souffre et à la fois pour la personne qui est à côté. Alors, on peut donner l'exemple du pasteur américain qui s'appelle Steve Bloom, qui a co-écrit avec son épouse Robin Bloom un livre sur le sujet intitulé « Broken Minds », ou comme autrement dit « Les esprits brisés ». Il raconte l'immense souffrance et la détresse qu'il a dû endurer comme pasteur baptiste, ainsi que celle de sa famille. Sa dépression avait une origine, dans son cas lui, organique ou biologique. La force du livre est de décrire la profondeur de la souffrance causée par la dépression. Cependant, ce ne sont pas toutes les dépressions qui ont une cause biologique ou un déséquilibre de la chimie du cerveau. Il semble qu'il y ait souvent un élément physique dans la dépression, mais ce n'est pas toujours le cas et l'approche de la médicamentation n'est pas toujours efficace. Moi, je me souviens, quand j'étais à l'école publique, il y avait un enseignant qui était un pasteur, qui était pasteur depuis des années, et il nous avait raconté, il voulait nous mettre en garde justement contre les attitudes dogmatiques, puis de toujours accuser les gens d'être dans le péché s'ils vivaient une dépression. Il nous racontait sa propre expérience. Il nous racontait qu'à un moment donné, il est arrivé à l'église un dimanche matin, et c'est arrivé comme un coup de masse sur la tête. Il dit, soudainement, je me suis mis à... Je me sentais tellement, tellement dépressif, puis ça a duré là, ça a duré longtemps. Et il y a les gens qui venaient le voir dans l'esprit de vouloir l'aider, et ils lui demandaient s'il y avait du péché dans sa vie. C'est ce qui était possible. Il ne faut pas exclure non plus cette possibilité-là. Mais il dit, lui, il racontait, il dit, quand il n'a pas de péché dans ta vie, du moins, on a tous, là, mais je veux dire, de vie continuellement dans le péché, là, il dit, quand il n'en a pas, tu te fais poser des questions comme ça, il dit, ça te fait plus mal que d'autres choses. Alors, c'est pour démontrer que, et là, il nous avait dit, je vous en prie, un jour, vous allez aller dans le ministère. Faites attention de ne pas avoir ce genre d'attitude-là. Ne jugez pas les causes de la dépression quand vous ne les connaissez pas. Deuxième, on avait dit qu'il y avait comme 3 grandes écoles, la cause est toute du domaine physique. Alors ça, c'est certains médecins, psychiatres qui ont adopté. Et c'est vrai que certaines personnes se sortent de la dépression par la médicamentation. Alors faut pas tout partir d'un sens, pas tout partir dans l'autre non plus. La deuxième, la cause est toute du domaine spirituel. J'ai oublié, je voulais l'emmener le livre, je l'ai oublié. L'auteur américain J.E. Adams, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà entendu parler, c'est un gars aux États-Unis, extrêmement connu. Il a écrit une multitude de bouquins sur des sujets qui sont tous reliés de près ou de loin à la dépression. Il y a eu une influence théologique énorme sur la pensée chrétienne sur l'affaire de la dépression, aux États-Unis en particulier, et dans le monde chrétien en général. Il écrit plus d'une centaine de livres, dont « Competent to Counsel ». Quand je suis allé à l'école biblique, c'est le livre qu'on nous faisait lire. On avait un cours sur le counseling biblique, qu'on appelait, là. Et c'est le livre qui nous faisait lire, J. Adams. Alors, je le connaissais un petit peu quand il m'a mentionné son nom. Et il a écrit un autre qui s'appelle « Christian Counselor Manual ». Autrement dit, un manuel sur comment on se doit d'aborder comme pasteur les problèmes reliés au domaine de la dépression. Il a été aussi le fondateur de l'influente organisation qui s'appelle, parce que si jamais vous étudiez ce qu'on appelle le counseling biblique, vous allez sûrement tomber en rapport avec ces écoles-là ou des bouquins qui parlent de ça. Alors, l'organisation, ça s'appelle The Institute for Nootetics Studies. J'ai mis sur le lien sur la leçon que les gens pourront aller voir qu'est-ce que c'est. Alors, cette position-là, qui est vraiment, eux, toute spirituelle, cherche à expliquer les causes de la dépression ou des états anxieux exclusivement dans le domaine spirituel. Il consiste, cette position-là, en deux principales affirmations. La première affirmation qui dit que la dépression est causée par la possession démoniaque et requiert l'exorcisme. Alors ça, c'était un petit peu... quoique ce n'est pas non plus exclu. Alors cette idée est souvent associée à certains milieux pentecôtistes et charismatiques qui mettent beaucoup l'emphase sur ce qu'ils appellent, ce que la Bible appelle la guerre spirituelle. Alors pour eux, la délivrance, selon eux, vient par l'expulsion des démons ou l'exorcisme. Alors on se doit de reconnaître la possibilité que la détresse mentale peut parfois être causée par la possession ou par la forte influence démoniaque. Cependant, nous avons déjà vu que les causes peuvent être aussi de nature physique ou biologique. Alors on doit souhaiter que les vues et les pratiques dogmatiques de ce mouvement d'explication par la guerre spirituelle soient limitées par l'augmentation des connaissances de la recherche médicale. N'oublions pas que voilà seulement quelques décennies, beaucoup croyaient que l'épilepsie était causée par les démons. Alors, on voit que des fois, la science médicale fait avancer des choses et que ça fait reculer les préjugés. Mais ce n'est pas à exclure non plus. Mais dans le domaine de ce qu'on appelle nootetics, l'approche nootétique, on peut le traduire en français par nootétique, je ne sais pas. La dépression, la deuxième affirmation, alors la première, c'est que faut que le démon sorte par l'exorcisme. La deuxième, c'est que la dépression, selon eux, est causée par le péché. Alors, conséquemment, pour régler le problème, ils vont par la réprimande, autrement dit, les personnes, ça doit être confronté à son péché, la repentance, autrement dit, l'inviter à confesser son péché, à se repentir, et la troisième, c'est vraiment la confession de son péché qui est requise. Alors, cette position-là a été largement adoptée dans les églises évangéliques à cause de l'influence, justement, de J. Adams et de son mouvement de counseling nootétique. Moi, je l'ai traduit nootétique, je ne sais pas si ça se traduit en français comme ça. Parce qu'en anglais, c'est Nootetic Counseling Movement. Alors, le Dr. Adams base sa position sur sa propre expérience personnelle avec la maladie mentale. Souvent, c'est ça qui est le problème. Les personnes qui écrivent sur le sujet partent de leur expérience personnelle et cherchent à l'étendre, que ça s'adresse à tout le monde. Ce n'est pas tout le temps le cas, là. Des fois, c'est le cas, pas tout le temps. Alors, lui, le Dr. Adams, avait eu des rapports avec la maladie mentale. Et il résume sa pensée avec l'expérience vécue dans deux centres de traitement où lui a été personnellement dans l'État de l'Illinois aux États-Unis. Alors il dit, moi c'est une traduction libre, là, que je pense que je l'ai traduit correctement. Il dit, à l'exception des personnes avec des problèmes organiques, comme des dommages au cerveau, les gens que j'ai rencontrés dans ces deux institutions de l'Illinois étaient là à cause de leurs échecs à rencontrer les difficultés de la vie. Pour l'exprimer simplement, ils étaient là à cause de leurs incessants comportements pécheurs et sans pardon. Autrement dit, il dit, à moins que ça vienne un problème du cerveau, là, ce qui c'est physique, là, il dit, la plupart des gens que j'ai rencontrés, la cause, pourquoi ils étaient là, c'est à cause du péché. En gros, c'est ce qu'il dit. Alors, sur la base de cette affirmation-là, il argumente que l'espoir pour les personnes déprimées réside dans la reconnaissance que leur dépression est le résultat du péché. Le mot « nootétique » vient du grec du Nouveau Testament, soit du nom « nootésia » ou du verbe « nootétéo » qui veut dire « avertir, réprimander, corriger, instruire ». Alors, c'est pour ça que ça dit « nootétique », c'est autrement dit... Dans certains cas, c'est vrai que la cause de la dépression réside dans le péché et que la façon de régler, c'est d'affronter la personne à ce qu'elle reconnaisse que le résultat de son comportement réside dans son péché. Des fois, c'est vrai. Alors, Romains, chapitre 15, verset 14, dit « Pour moi, frère, j'ai la persuasion que vous êtes plein de bonté, rempli de connaissances et capable de vous exhorter les uns les autres. » Quand on regarde aussi Romains 15, 14, mais dans la version Lausanne, celle que je viens de vous donner, c'est la version Sterval, la version Lausanne dit « Pour moi, mes frères, j'ai aussi cette persuasion à votre égard, que vous aussi, vous êtes plein de bonté, rempli de toute connaissance, capable de vous avertir les uns les autres. » Vous voyez, il y en a un qui parle d'exhorter, l'autre, il parle d'avertir. Alors, quelque part, les deux notions que Jay Adams utilise, c'est les affaires bibliques. C'est d'avertir, réprimander, reprendre, instruire. Alors, son remède, en général, lui, c'est « Si tu agis bien, tu te porteras bien. » En anglais, c'est « If you do right, you will feel right. » Il y a du vrai là-dedans. Encore là, c'est comme quand tu portes toute une direction puis que tu mets tout le monde qui sont déprimés dans le même sac, à quelque part, tu risques de faire des erreurs. Alors, les forces de cette position-là. Il faut se souvenir qu'à l'époque de Jay Adams, quand il a commencé à écrire, aux États-Unis, il y avait un mouvement qui disait que les alcooliques, c'est pas du péché, c'est une maladie. Et il y avait aussi un autre mouvement qui disait que l'homosexualité, c'est pas un péché, c'est une maladie, c'est les gènes. Alors lui, il a commencé à travailler à partir de ces affirmations-là qu'il croyait fausses, et il a voulu démontrer que certaines choses qu'on considérait comme étant des maladies n'étaient pas des maladies, mais c'était bien des péchés. Alors, les forces de sa position, c'est qu'il réagissait contre les visions humanistes qui expliquaient des addictions pécheresses, comme l'alcoolisme ou l'homosexualité, comme une maladie ou comme provenant des gènes. Je me souviens de l'avoir déjà entendu, ça, là, trop de gènes X, Y, je ne sais pas trop quoi, là, en tout cas. Il dénonçait les personnes qui cherchaient à se déculpabiliser et à se soustraire à leur responsabilité morale en mettant la faute sur les gènes. Pas ma faute, c'est mes gènes. Et vous, pas d'hier, hein, vouloir se disculper. Nous croyons que l'effort qu'il a fait était nécessaire. Était nécessaire. Nous croyons qu'il avait aussi raison de dénoncer la surprescription de médicaments psychiatriques et l'utilisation du counseling uniquement pour les aider à mieux vivre dans leur péché. Autrement dit, quand vous allez dans ses livres, vous allez en profondeur, il dénonçait les gens qui cherchaient à déculpabiliser ceux qui étaient dans des problèmes uniquement par la surmédicamentation ou par le counseling qui dit « Ah, fais toujours pas, là, c'est tes gènes. » Alors, quelque part, quelqu'un ne sort pas de ses problèmes comme ça. Alors, il a le mérite d'avoir remis la dimension spirituelle dans le problème de la dépression. Il a remis la Bible comme étant centrale pour les conseillers et les pasteurs chrétiens dans le traitement de la dépression chez les chrétiens. Alors, lorsque les chrétiens vivent des situations personnelles difficiles, il arrive qu'il soit porté à l'apitoiement et de glisser dans l'habitude de blâmer tout le monde à l'exception d'eux-mêmes pour leurs problèmes. Alors l'approche nouthétique, si ma traduction est correcte, peut s'avérer très utile dans ces cas-là. Alors on va faire encore un autre petit bout, puis on continuera la semaine prochaine. Alors la faiblesse de cette position-là, on croit que l'approche de Jay Adams met trop l'emphase sur la responsabilité du patient déprimé. On est persuadé que souvent, les causes sont plus complexes qu'un simple mauvais choix moral. En plaçant trop le blâme sur le malade et ses choix moraux, les résultats peuvent s'avérer faux, dangereux et aggravants. Et là, je vais vous citer pas un deux de pique, là, le fameux pasteur et prédicateur anglais Charles Spurgeon, qui a vécu de 1834 à 1892, un des plus grands prédicateurs de tous les temps en Angleterre et connu internationalement, a connu une période de dépression dans sa vie. Voici son observation sur le sujet. Je ne la lirai pas en anglais. Moi, je l'ai mis en anglais là, dans le texte pour que les gens puissent voir si j'ai traduit correctement. Mais je voulais traduire en traduction Google Translation et j'ai arrondi les coins un peu parce que des fois, Google Translation, c'est un petit peu carré, comme on peut dire. Mais ça, quand même, ça fait quand même un travail. Alors, voici ce qu'il disait. Ce peut sembler très bien pour ceux qui sont en bonne santé et plein d'esprit, de blâmer ceux dont la vie est éprouvée par la maladie mentale, ou couverte de la pâleur de la mélancolie. À l'époque, on appelait ça mélancolie, les dépressions. Mais la maladie est aussi réelle qu'une plaie béante, il dit. Et d'autant plus difficile à supporter, parce qu'il se trouve dans la région de l'âme, et que pour l'observateur inexpérimenté, ce semble être une simple question d'imagination fantaisiste et malade. Autrement dit, ça revient à l'idée que tout est dans sa tête. Alors, lecteur, ne ridiculisez jamais le nerveux ou l'hypochondriaque. Leur douleur est réelle. Bien plus qu'une grande partie de la maladie réside dans l'imagination, le processus de pensée, elle n'est pas imaginaire. Alors là, on parle de quelqu'un qu'on ne peut pas dire que c'est un esprit faible, c'est un grand esprit qui a connu le problème, puis lui, il dit, allez pas penser que tout est dans la tête, le problème est aussi réel qu'une plaie béante. Si tu te ferais mal, puis tu auras toute la peau ouverte, une plaie béante, ta voix, là. Mais là, il dit, le problème, c'est parce qu'à cause qu'on ne la voit pas, on est porté à penser, à dire toutes sortes de choses qui ne sont pas nécessairement intelligentes. Alors, pour aujourd'hui, on va arrêter là et on continuera la semaine prochaine pour la leçon 2. Il va nous en rester encore, je pense, au moins 4. D'après ce que je peux voir, ça va faire à peu près une douzaine de petits sermons d'une demi-heure. Alors, on va se terminer là-dessus.